Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tour du jardin dans les jardinières. Jusqu'à 8h, toutes vos questions trouveront réponse grâce à Philippe Détra, horticulteur à Neuchâtel et patron de l'entreprise Le Jardin des Senteurs. Et puis pour pouvoir vous transmettre encore plus de savoir concernant le jardinage, eh bien Philippe sera accompagné de Tom le jardinier. Alors bonjour à vous deux, bonjour Philippe, bonjour Tom.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Et puis, bien sûr, on n'est pas seul. Il y a évidemment Sophie qui est avec nous pour cette heure. Bonjour.
Bonjour Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le samedi matin. L'automne a commencé. Les feuilles des arbres vont gentiment jaunir et tomber. Et on espère que vos questions seront très nombreuses à tomber aussi ce matin. Des questions que vous pouvez poser directement aux jardiniers en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ou alors, si votre voix n'est pas encore chaude, vous pouvez opter pour l'option du SMS en envoyant jardin suivi d'un espace et de votre question. Et vous envoyez le tout au 939. Ou encore, une dernière possibilité, vous pouvez remplir notre formulaire que vous trouvez sur nos sites RFJ, RJB et RTN.ch.
Eh bien Sophie, je pense que vous avez tout dit. On est le 29 septembre 2018 et c'est parti pour les jardinières.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
On a une première question qui nous vient de Frédéric qui a du liseron dans son jardin et qui aimerait savoir comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser. Alors Philippe ou Tom ou les deux, on attend votre savoir en la matière.
Bon, moi je vais commencer avec le liseron. Le liseron c'est une plante vivace qui est assez envahissante, c'est vrai. Elle va partout. Donc le mieux c'est la bêche et surtout bien retirer toutes les bouts de racines. Vous en laissez un tout petit bout et ça repart. Je sais pas si Tom il a une petite idée supplémentaire.
Après il faut aussi juste se poser la question si ce liseron il est très embêtant, on peut le laisser parce que c'est une plante mellifère. Elle attire donc beaucoup les abeilles, les papillons. Et puis, il faut vraiment beaucoup d'huile de coude, de bêche, et ça peut prendre plusieurs années si on veut vraiment s'en débarrasser complètement. Un demi-centimètre de liseron laissé en terre, ça peut provoquer une nouvelle plante. Donc, évitez aussi de motoculter qui risquerait de faire des boutures de liseron dans tout le jardin.
Et est-ce que le liseron peut avoir des propriétés positives quand même, ou c'est vraiment une plante qu'il faut absolument se débarrasser?
Alors, je laisse répondre Philippe.
Ouais, alors moi j'ai pas connaissance de raison positive de le laisser dans le jardin, si ce n'est comme vient de le dire Tom qu'il est très mellifère, donc il va être apprécié des insectes. Je crois pas que c'est une plante médicinale, mais peut-être qu'on ignore tout simplement ceci.
Et Coralie de Bienne nous a écrit qu'elle a régulièrement des toutes petites mouches, des moucherons dans la terre de ses plantes d'appartement. Elle demande à quoi c'est dû et comment est-ce qu'il faut y remédier.
Alors en fait, c'est des cyarides, c'est des toutes petites mouches qui volent un petit peu au-dessus des plantes. Il faut savoir qu'elles ont une durée de vie à peu près d'une semaine. Et un couple de cyarides peut pondre entre 50 et 300 œufs. Donc,
ça fait quand même une bonne famille.
Ouais. On peut vite être envahi. Le premier conseil, c'est ils aiment les sols humifères et humides, donc laisser sécher le terreau entre deux arrosages. Et puis après, un petit truc, c'est un paillis de sable, ça pourrait aussi éviter que les mouches reviennent pondre dedans ou des petits cailloux dans nos pots de fleurs.
Donc ce qu'il entend par un paillis, c'est-à-dire une petite couche de sable sur le dessus de la terre, de façon à empêcher les mouches, ces petites mouches, ces moucherons, de venir pondre dans la terre. Et puis, il faut dire qu'elles aiment aussi l'humidité et la tourbe. Donc voilà, un petit coup de sec, comme il vient de le dire, et ça devrait en régler assez rapidement la chose.
Et ouais, ça c'est un bon petit truc, parce que c'est vrai que c'est assez fréquent de voir ces petites mouches, des fois on ne sait pas d'où elles viennent. Est-ce qu'il y a des plantes comme ça qui attirent plus ces petits moucherons, ou c'est vraiment une question d'humidité?
C'est tourbe et humidité qui sont les plus favorables, donc on en trouve assez facilement dans des serres chaudes, où justement on a pas mal d'humidité, un petit peu de tourbe et voilà.
Puis après, un petit peu moins esthétique pour s'en débarrasser, c'est les pièges gluants jaunes éventuellement déposer dans nos pommes. Alors ça colle et puis c'est pas très très joli.
Merci beaucoup. On a une autre question de Nina qui a un épiphyllum. Est-ce que je le prononce correctement?
C'est juste.
Et puis Philo, bref. Qui fait de très belles fleurs l'été, mais ses feuilles, par contre, sont perforées, un peu comme rongées. Quel produit utiliser pour le soigner? Est-ce que c'est un champignon? Et voilà, donc est-ce que vous pouvez venir en aide à Nina?
Alors, on rame un petit peu là-dessus ce matin. On n'a pas trouvé de champignons qui attaquent. Oui, c'est possible d'avoir des champignons, mais c'est très rare sur les cactus, parce que ça voudrait dire que les cactus ne sont pas placés au bon endroit. Vu que les cactus, c'est de la famille des cactus, demandent un petit peu de chaud et de sec, il y a vraiment peu de chances d'avoir des champignons dessus. La possibilité qu'on a trouvée, c'est éventuellement soit des chenilles, soit des petits charançons, donc des petits coléoptères, ou encore des minuscules escargots, ça existe. Si c'est en intérieur, il y a vraiment peu de chance, mais si c'était en extérieur, c'est tout à fait possible. Donc il faudrait un peu inspecter la plante.
Merci Philippe. Et puis on a une question qui nous vient de Claudine de Delémont qui demande comment déplacer des framboisiers d'automne et d'été. Est-ce qu'il faut mettre de l'engrais avant la plantation?
Alors oui, il faut de toute façon mettre un bon compost de fond parce que les framboisiers demandent beaucoup de matière organique pour pousser. Alors moi j'attendrai encore un petit peu, il faut faire ça en automne quand ils sont débarrassés de leur feuillage. Et puis c'est le meilleur moment de le faire. On pourrait le faire au tout début du printemps, mais alors là, ça risque de demander beaucoup plus d'arrosage pendant toute la saison. Donc vraiment, on va éviter de le faire au printemps si on a le temps de le faire cet automne.
Un framboisier, ça peut vivre combien d'années à peu près à partir du moment où on l'a planté? C'est quelque chose qui dure extrêmement longtemps?
Oui, plus de 10 ans sans problème.
Plus de 10 ans, hein, il me semblait bien.
Ouais. Je rajouterais qu'il ne faut pas mettre d'engrais. D'engrais sous le nom d'engrais qu'on trouve dans les commerces en automne, c'est absolument inutile. Donc le compost que l'on rajoute à la terre en automne suffit largement.
Et puis on vient de recevoir un formulaire d'Anita de Courfèvre qui nous pose la question suivante. Doit-on enlever les boutons de graines qui se forment en ce moment sur les lauriers roses et blancs?
Les boutons de graines.
Alors voilà.
Je pense qu'elle parle elle pense à des fruits allongés en forme de haricots.
Certainement, oui, voilà, sur les lauriers roses et blancs.
Alors effectivement, sur les lauriers roses, qui ne sont pas des lauriers d'ailleurs, il faudrait enlever ces fruits parce qu'en fait, ça va manger, c'est pas beau, et puis ça va manger de la force, enfin ça va demander de la force à la plante pour faire mûrir les graines dont on n'a pas besoin.
Et bien voilà, donc du coup, Anita va certainement peut-être nous répondre si c'est vraiment de ça qu'elle parlait. Et puis pourquoi vous disiez, on n'appelle pas ça des lauriers?
Parce que le seul vrai laurier est le laurier noble, celui qu'on utilise en cuisine, Laurus nobilis. Et il y a beaucoup de confusion avec ces noms communs donnés à certaines plantes, comme le laurier thym, qui n'est pas un laurier. Ni un thym, ni un hybride entre le laurier et le thym. Il y a les laurels aussi, ces fameux machins qu'on trouve comme haies pour remplacer les tuyas, ça pousse très vite. C'est des laurels, c'est un prunus à feuilles de laurier. Et puis, petit rappel aussi, tous les lauriers sont quasiment toxiques. Même le laurier noble que l'on utilise en cuisine n'est pas mangeable, on l'utilise pour donner du goût seulement.
Merci d'avoir répondu à ces premières questions. Et puis, je vous propose de faire une petite pause musicale pour réfléchir si vous avez éventuellement d'autres questions. Et on revient juste après cette musique.
7h, 8h, les jardinières.
On a reçu un appel au 0 900 1 70 20 20. Je vous rappelle que nous sommes dans les jardinières jusqu'à 8h et que si vous voulez poser vos questions en direct à Tom le jardinier, à Philippe Détra, tous les deux horticulteurs professionnels, eh bien vous pouvez composer ce numéro pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également envoyer un SMS au 939. Il suffit de noter le mot jardin, un espace et votre question bien détaillée. Il y a également nos formulaires sur nos sites internet qui vous permettront de détailler votre question. Et Sophie, justement, pendant la pause musicale, vous avez reçu un appel.
Oui, j'ai reçu un appel de Marlise de Saint-Imier qui a un grenadier et qui demande quand est-ce qu'il faut le rentrer et quand est-ce qu'il faut le couper, sachant que justement Saint-Imier c'est à 800 mètres d'altitude et que le matin il fait genre 4 degrés. Donc elle voulait savoir à quel moment le rentrer.
Oui, il va supporter un tout petit gel, donc elle n'a pas besoin de s'exciter. Mais bon, il va perdre ses feuilles et il faut le rentrer effectivement à l'abri du gel. Moi, je les rentre à autour de 0,2 degrés environ. Et puis maintenant, au niveau de la taille, alors franchement, ben, la taille, c'est une plante chez nous qui est utilisée en plante décorative, en arbuste décorative, plante d'orangerie. Il n'y a pas de taille particulière à faire, si ce n'est si elle a des branches qui la gênent. Voilà.
Et on a reçu également une demande de Jean qui pose la question suivante. Quelle est la meilleure façon de conserver le plus longtemps des pommes de terre sans qu'elles germent et sans utiliser de retenox ou rétinox?
Alors, quand il les récolte du potager, il faut les laisser sécher un jour à l'extérieur, juste les brosser. Regardez s'il y en a des qui sont abîmés, malades, il faudrait éviter de les conserver avec les autres. Après, s'il a une bonne cave, ce qui fait maximum 10-12 degrés, c'est le meilleur moyen. Et puis, éviter que la cave soit trop humide. Et on pourrait les conserver pratiquement 8 mois comme ça.
Ah oui, 8 mois quand même de conservation pour les pommes de terre. Parce que si elles commencent à germer, c'est vraiment un signe qu'elles ne sont plus bonnes. Ou parce que des fois, on enlève un petit peu les germes et puis ça va quand même.
Techniquement, on pourrait manger jusqu'à 2 kilos de pommes de terre germées sans rien avoir. Donc, on n'a pas trop de soucis à se faire.
Et puis, on a Rose de Moutier qui nous demande quel est le moyen le plus écologique, à part à la main, d'enlever les mauvaises herbes entre les dalles, sur une terrasse par exemple, ou sur un chemin d'accès. Elle a entendu que quelqu'un le faisait avec du vinaigre, mais est-ce que cela n'attaque pas... Est-ce que cela n'attaque que les mauvaises herbes? Comment l'utiliser? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors la façon la plus écolo, c'est effectivement avec l'huile de coude, c'est-à-dire...
la fameuse huile de coude.
il faut les enlever à la main, il faut gratter, enlever les racines. Maintenant, tout ce qu'on va rajouter sur le sol, si c'est un sol qui est cultivable, eh bien évidemment c'est tout mauvais. On a entendu parler de sel aussi. Ça va amener de la salinité au sol. Maintenant, sur un chemin, c'est peut-être pas si grave que ça. Mais il faut penser aussi que ce sel, il va descendre dans le sol et partir éventuellement dans les nappes phréatiques. Je ne sais pas si Tom a une autre idée.
Après, on parlait justement des pommes de terre avant. Mais quand on cuit nos pommes de terre, on peut vider l'eau bouillante sur ces mauvaises herbes. Elles ne feront pas bien long feu. Puis après, on parle aussi d'un chemin d'accès. Si c'est des petits gravillons, tout ça, des fois, les retirer pour placer un géotextile après, en ayant bien nettoyé les graviers pour qu'ils aient plus de terre. Donc, c'est un géotextile, c'est un film plastique qui laisse passer l'eau. Et comme ça, on évite que la lumière sur le sol. Et donc, on aurait moins de mauvaises herbes les années suivantes.
Ah ouais, c'est plein de bons petits trucs, hein, donc géotextile, l'eau des pommes de terre tout simplement.
Ou des pâtes,
donc vraiment quelque chose qui a un peu de sel finalement.
Mais pas forcément en fait, c'est juste, on va ébouillanter les mauvaises herbes, donc voilà.
Et puis par rapport au vinaigre, comme le posait Rose justement de Moutier, vous le déconseillez quand même relativement.
Alors, moi je le déconseille parce que on parle beaucoup de biodiversité et puis d'espèces qui disparaissent puis dans nos sols. Alors il y a aussi de la vie, de la biodiversité. Alors l'eau bouillante sur les dalles, ben ça va ébouillanter les juste à la surface. Mmh. Enfin, ça va pas trop pénétrer dans le sol. Mais il y a beaucoup d'astuces qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux avec de l'eau, du sel, du vinaigre. Moi, j'éviterais vraiment parce que on va préserver notre biodiversité dans nos sols.
Puis le bicarbonate de soude, on en vante un peu les bénéfices. Vous avez déjà entendu parler de l'utilisation?
Alors moi, j'en ai entendu parler, c'est que c'est très très dilué, mais j'éviterais aussi. Mais c'est biodégradable, mais j'éviterais aussi.
Les jardinières.
Et on est de retour pour la deuxième partie des jardinières. Les températures ont rechuté ces temps, mais nous sommes toujours présents pour répondre à vos questions. Et ce matin, c'est Philippe Détras, le patron du Jardin des Senteurs à Neuchâtel, et son collègue horticulteur Tom le Jardinier qui se font donc un plaisir de répondre à vos questions.
Et ces questions, je vous le rappelle, vous pouvez les poser directement à l'antenne en nous appelant au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute, ce qui vous permettra de discuter directement avec nos jardiniers du jour et du coup avoir plus de précisions possibles. Mais vous pouvez également nous faire part de toutes vos interrogations par SMS en écrivant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question que vous envoyez au 939 ou encore via le formulaire que vous trouvez sur nos sites internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
Et oui, il est 7h37 dans les jardinières. Bienvenue si vous nous rejoignez. On vient de recevoir une question justement par SMS. La question, c'est la suivante pour Tom et Philippe. Est-ce qu'on peut garder à l'intérieur les Dipladenia pour passer l'hiver?
Alors oui, on peut les garder à l'intérieur pendant plusieurs années. Il faut faire attention que c'est des plantes qui sont assez gourmandes. Moi, je les rempoterai au printemps et puis aussi un maximum de soleil pendant l'hiver parce que genre de plantes, c'est des plantes qui vivent dans le sud. Donc vraiment de la lumière, diminuer légèrement les arrosages et puis les rempoter au printemps. Est-ce que Philippe, tu as d'autres astuces ?
Non. Donc, c'est vrai que toutes les plantes qu'on peut rentrer en hiver, il faut leur donner un maximum de lumière. Sinon, elles vont s'étioler, c'est-à-dire elles vont faire des longues branches pour aller chercher la lumière. Et ça, c'est particulièrement pas très joli, quoi. Voilà. Mais non, c'est possible. Pour le Dipladenia, il faudrait au moins 15 degrés. Mais pas le mettre dans une plante, pas dans un endroit où on hiverne les citronniers, tout ça, il aurait un peu trop froid.
Est-ce qu'il y a une espèce de réadaptation quand on veut les ressortir au printemps? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de spécial pour que justement ils ont passé, on va dire, l'hiver bien au chaud, confortable, et là on les remet dehors? Est-ce qu'il y a quelque chose de qui aura quelque chose de spécial à faire l'année prochaine, par exemple?
Il faudra y aller en douceur pour les sortir, donc on va choisir des journées qui sont déjà un peu chaudes, où il n'y a pas plus de risque de gel, et surtout absolument, absolument éviter de les sortir en plein soleil du premier coup. Moi, je conseille de le sortir les plantes lorsqu'il fait doux et couvert, si possible, parce que la plante, elle doit se faire une espèce de crème solaire qu'on appelle la cuticule, et qu'elle ne fait pas, évidemment, quand c'est à l'intérieur. Mais elles sont comme nous, hein. C'est le coup de soleil assuré si vous les sortez en plein soleil.
Et puis, on a André qui nous a posé une question sur du persil. Cela fait 2 années de suite qu'il met un planton de persil dans une jardinière surélevée, dans un bac, et qu'il jaunit rapidement. Il crève même, comme il dit, malgré la mise de terre de semis. Est-ce qu'il faut changer la terre dans le bac? Si oui, quelle terre prendre? Ce sont ses questions.
Alors, il y a plusieurs causes pour le persil. Déjà, s'il est trop arrosé ou il y a un excès d'engrais ou ce genre de choses-là, donc veillez à donner des bonnes conditions. Puis après, le persil, c'est une plante bisannuelle. Ça veut dire qu'elle étale sa vie sur 2 années civiles. Donc, il faut, généralement, moi, quand j'en plante un, je sème les graines du suivant. Comme ça, on a toujours un persil qui est bon, et puis donc il va faire des fleurs la deuxième année et après il meurt, donc c'est mieux d'en replanter un chaque année. C'est pas une plante vivace à ce qu'on pourrait le croire.
Ah oui, donc le persil vit 2 ans finalement et après, ben voilà, hop, on en met un nouveau.
Quick. Et puis c'est pas comme la ciboulette qui est une plante vivace, ou le romarin ou d'autres plantes.
Et finalement, ces plantes aromatiques, on pense qu'il faut s'en occuper un peu de la même manière, mais en fait pas du tout, elles ont vraiment des cycles de vie différents.
C'est ça. Et puis encore un conseil, évitez vraiment trop d'eau aux pieds parce qu'elle peut être sensible.
Et puis on va parler d'un autre sujet à présent, un sujet où on n'avait pas encore abordé, c'est les hôtels à insectes. Alors ça concerne un petit peu moins le jardin, mais quand même, c'est une question de Gaëlle de Lanneville qui justement a un hôtel à insectes et qui est infesté de toiles d'araignée. Et les insectes n'ont donc pas intérêt à y venir, évidemment, hein, les araignées guettent, donc l'hôtel à insectes est vide. À part le nettoyage régulier, est-ce qu'il y aurait un moyen durable de chasser seulement les araignées?
Alors, souvent, ces hôtels à insectes, ils sont mal placés. Moi, je les oriente assez orientés sud ou à l'est parce que c'est trop à l'ombre. Ça peut justement attirer les araignées. Puis, il ne faut pas que cet hôtel à insectes, ce soit un hôtel à viande pour araignées. On va essayer d'éviter ça. Donc, privilégier un bon emplacement.
Donc, l'emplacement, pour vous, c'est vraiment la clé du succès de l'hôtel à insectes. Mais quel est finalement l'avantage d'avoir un hôtel à insectes, si ce n'est que pouvoir observer le développement des petites bêtes?
Alors, c'est que dans les jardins, on a souvent éliminé beaucoup de refuge où c'est que les insectes passent l'hiver. Donc c'est un bon moyen. On peut aussi accompagner son hôtel à insectes, mettre une petite maisonnette pour les hérissons, parce que tous ces hôtels à insectes vont accueillir les auxiliaires. Donc ces auxiliaires, c'est des animaux qui sont bénéfiques pour le jardin. Et il y a beaucoup, on parle aussi des abeilles. Il n'y a pas que l'abeille domestique dans laquelle on va prendre le miel, il y a aussi plein de sortes d'abeilles. Et certaines de ces petites abeilles aiment particulièrement aller dormir dans les hôtels à insectes.
Et puis on retourne du côté des plantes. Chloé nous écrit concernant son magnifique hortensia de couleur rose qu'elle a rempoté avec une terre de bruyère et des billes d'argile. Elle nous dit qu'il est exposé le matin au soleil et ensuite il est à l'ombre, mais depuis quelque temps il a des taches sur ses feuilles et fait grise mine. Quel conseil est-ce que vous pouvez lui donner ?
Bon, la situation me paraît bonne, puisque l'hortensia n'aime pas être placé en plein soleil. Maintenant, des taches, il faudrait presque voir la photo. J'ai de la peine à penser à une maladie, parce que c'est assez normal que les hortensias fassent des feuilles qui viennent un petit peu moches en ce moment, elles vont tomber. Donc c'est une plante qui perd ses feuilles, c'est naturel. Maintenant, si c'était éventuellement une petite tache, des taches grises, comme saupoudrées de blanc, ça pourrait être de l'oïdium, ce qui est tout à fait possible. Dans ce cas-là, il faudrait déjà enlever ses feuilles, les supprimer, les brûler, et puis ça évitera de cette façon, ça évitera que le champignon réattaque rapidement l'année suivante.
Puis après, en pot en tourbe, ces temps, il a fait tellement sec, il a très peu plu. La tourbe, ça a besoin de beaucoup d'eau, parce que sinon, c'est une éponge, elle risque de trop retenir l'eau. Donc ça peut être aussi une des conséquences, bien arroser. Et je crois que Philippe, il a un secret pour les arrosages, plantes en pot.
C'est le doigt.
Le secret voilà. Du doigt.
On plante le doigt. Voilà. Donc si c'est sec, on met de l'eau. Si c'est mouillé, on met rien.
Les jardinières.
Et puis pendant la pause musicale, on a reçu un appel. On a en ligne Ariane de Fornet qui veut rebondir sur une question qui a été posée ce matin. Ariane, bonjour.
Ah bien, il semblerait qu'elle ne soit plus avec nous. Elle voulait rebondir sur la question des pavés, des mauvaises herbes entre les pavés, c'était ça?
Oui.
Ah, bonjour.
Bonjour.
On vous a en ligne, c'est tout bon.
Oui.
Alors, on vous laisse peut-être poser votre question à Philippe et Tom.
D'accord, merci. Oui, alors je reviens sur une question concernant les mauvaises herbes. Moi, je sais sur des pavés, sur la terrasse. Puis j'ai aussi de la mousse. Alors je vais voir comment y remédier. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne revienne pas?
Alors, je ne sais pas si Philippe a une astuce comme ça.
Pas spécifiquement, en fait, la mousse, les mousses, elles se développent quand il y a de l'humidité, donc il y a sûrement trop d'humidité. Peut-être un mauvais drainage sous les pavés. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y aurait trop d'humidité? Mais je l'estompe maintenant.
Après, il y a le nettoyeur à haute pression qui permet de nettoyer bien le karcher, voilà. Mais après, pour que ça revienne pas, c'est difficile. On va pas vous demander de raser votre maison pour que votre terrasse soit au soleil.
Non. elle est au soleil justement.
Alors, après les parasols, les toiles, l'ombrage peuvent aussi faire de l'ombre.
Dans tous les cas, on va éviter de mettre des produits phytosanitaires comme les désherbants sont interdits sur les pavés, parce que c'est des produits qui vont être ensuite qui vont passer de nouveau dans les nappes phréatiques, et puis c'est ce qu'on boira par la suite.
Oui, et puis sur les pavés, ça ruisselle, on ne sait pas forcément toujours où c'est que ça va. L'eau bouillante, comme c'est sur la terrasse, c'est aussi une solution
comme
facile.
Comme vous avez dit, avec le... Ouais.
Les pâtes, le riz, d'accord, les pommes de terre.
Alors je vais essayer avec ça.
En tout cas, merci de nous avoir appelés ce matin.
Merci à vous. Bonne journée.
Excellente journée.
Au revoir, merci.
Merci. Et puis on vient de recevoir un SMS de la part de Nicole qui nous pose la question suivante. J'ai un mûrier, pas un mûrier sauvage, il est sans épines et il est grand, haut et il prend de la largeur. Elle voudrait savoir comment le tailler.
De quel mûrier elle parle ? D'un arbre ?
Alors, elle mentionne simplement que c'est un mûrier, mais pas sauvage. Mais il n'a pas d'épines, donc c'est effectivement, ça peut être...
On a des ronces sans épines, ça existe. Donc là, si elle pense à ça, eh bien, il faudrait juste retirer les branches qui ont donné des fruits, et puis on ne laisse que celles qui n'ont rien donné, et c'est sur ces branches-là que ça donnera l'année prochaine. Maintenant, si elle parle d'un mûrier, le vrai mûrier, l'arbre sur lequel on élève des vers à soie, alors ça, c'est tout autre chose. C'est une taille fruitière. Voilà, on va tailler ça comme un pommier, par exemple.
Donc, c'est-à-dire vraiment coupé à la... Je ne me souviens plus de la taille des fruitiers. Rappelez-nous un petit peu, Philippe.
Alors, la taille des fruitiers, il faut, pour que les branches, on les essaye qu'elles soient assez plates, on sélectionne quelques charpentières et puis des branches qui se ramifient de ces charpentières.
Et justement, on va enchaîner avec une question sur les arbres fruitiers, parce qu'on n'en a pas encore parlé ce matin. Et c'est vrai que c'est un peu un sujet d'actualité.
Cette saison,
les arbres débordent. Hein, donc les pruneaux sont en train de gentiment finir. On attend les coins, hein, des gens attendent les coins, on le sait. Et puis les poires, les pommes, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment, Tom et Philippe, au niveau des arbres fruitiers?
Alors là, on est en pleine période de récolte. Pour la pomme, donc, on la récolte délicatement, juste en faisant un geste de la main légèrement tourné. On évite de récolter dans le même panier les pommes qui sont tombées, qui pourraient être malades ou tachées ou ce genre de choses-là, qui iront peut-être soit au compost si elles sont vraiment trop malades ou on peut en faire du jus de pomme. Pour la poire, on la récolte en cassant généralement le pédoncule, donc la queue du fruit, avec juste l'index. Une petite astuce, donc, quand on les conserve, généralement elles sont en cave, il faut faire qu'un seul étage de pommes ou de poires. Et puis les poires, elles ont tendance à ce que l'eau s'évapore. Donc une astuce que faisaient mes grands-parents, c'est qu'ils ciraient juste le bout où c'est qu'on a récolté la poire avec de la cire ou où c'est qu'on cachetait les lettres avec, et ça évite que l'eau s'évapore de la poire et elle se conservera encore mieux pour passer tout l'hiver.
Et comme quoi les bons petits trucs de grands-parents, ça marche toujours. Allez-y Sophie.
Ça marche. Oui.
Oui, donc on a Nicole qui précise qu'elle a un mûrier qui donne des fruits, donc si vous voulez revenir.
Voilà, si on revient sur la question d'avant.
Mais l'arbre donne aussi des fruits.
Alors,
moi j'en ai deux, c'est des fruits absolument délicieux qui font des fruits exactement comme les fruits de la ronce qu'on appelle mûre, par analogie justement au fruit du vrai mûrier qui est un arbre.
C'est vrai que j'imaginais pas que c'était autant complexe, hein, le mûrier, qui avait plus autant de... Bon, un mûrier, c'est un mûrier. Non, alors finalement, il y a quand même vraiment l'arbre et l'arbuste.
Après, une petite astuce, si c'est la ronce, généralement, il faut vraiment bien les palisser parce qu'elles ont tendance à se marcoter, donc à se multiplier si les branches traînent au sol, et ça peut vite être envahissant si elles se marcotent comme ça. Donc vraiment, essayer de les palisser, ça peut éviter aussi que ça se propage.
Eh bien, merci Tom et Philippe. On a encore le temps pour une question de Thomas, qui s'est récemment acheté un figuier, et puis il demande tout simplement s'il faut le tailler, si oui, comment?
Alors,
Philippe adore les figuiers.
Ouais, c'est vrai, j'ai une petite collection. Le figuier ne se taille pas comme un fruitier normal, donc on va en principe éviter de tailler le fruitier comme on le ferait avec un pommier ou n'importe quel autre fruitier. Tout simplement parce que si on coupe les extrémités des branches, ben on n'aura pas de fruits l'année suivante, tout simplement. Donc la taille du figuier se fait de manière très simple. On enlève juste les branches qui sont trop vieilles ou qui nous gênent au passage. Tout simple, c'est tout. Mais on ne va pas couper les bouts.
Et puis on a reçu encore une question de Michel, hein, Sophie, je vous laisse la poser peut-être.
Oui, on vient de recevoir une question par SMS de Yvette. Qui a deux forsythias qui ne fleurissent jamais et elle se demande pourquoi.
Alors, je vais juste rebondir encore sur le figuier parce que j'ai oublié de
donner
le moment. Idéalement, ça serait bien de le faire autour de mi-mars, surtout pas avant, parce que s'il se réveille trop tôt, il risque d'avoir les nouvelles pousses ou les bourgeons qui gèlent avec des petits gels tardifs. Donc, pas avant mi-mars. Maintenant, pour les forsythias qui fleurissent pas, ils ont probablement été taillés au mauvais moment. Le forsythia se taille comme n'importe quel buisson à fleurs juste après la floraison. Et parfois, certaines personnes les taillent au tout mauvais moment, c'est-à-dire au printemps. En fait, en le taillant au printemps, on va supprimer toutes les branches qui auront des fleurs.
Et puis encore une petite question, donc on arriverait bientôt en fin d'émission. En ce moment, au jardin, qu'est-ce que vous conseillez de faire ?
Alors, il est gentiment temps, avec les températures nocturnes qui fait, de rentrer toutes nos plantes qui peuvent être sensibles au froid. On voit aussi nos plantes annuelles qu'on a plantées ce printemps, au mois de mai, qui commencent à gentiment péricliter. Donc, on peut gentiment les enlever, préparer le terrain pour planter les bisannuelles, tout ce qui est pensée, tout ce qui est pâquerette, myosotis, les plantes vivaces d'extérieur, les bruyères et tout ça. Et puis, surtout, moi, j'adore les bulbes de tulipes, de crocus et tout ce genre de plantes qui explosent au printemps. Donc vraiment, ça commence à être la saison pour faire tout ça.
Super, merci en tout cas d'être venu, Philippe Détra et Tom le jardinier. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions des auditeurs. On vous souhaite une excellente journée aux deux.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bon week-end.
Et les jardinières reviennent samedi prochain à la même heure. Mais si vous avez des questions qui vous viennent d'ici là, vous pouvez envoyer un SMS au 939 ou encore remplir votre question dans le formulaire. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.